Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Dans quelle époque, dans quelle aventure Franck Ferrand va-t-il nous entraîner aujourd'hui sur Europe 1? Le plus simple, c'est de lui poser directement la question. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. En effet, c'est le plus simple. Nous allons faire un petit saut d'un siècle dans le temps, un tout petit de 60 km dans l'espace, en tout cas depuis la rue François 1er. En effet, nous nous invitons cet après-midi dans un des endroits les mieux cachés, un des endroits privilégiés de la belle époque. Il s'agit de la propriété de Monsieur Claude Monet à Giverny dans le Vexin normand. Et pour être sûr de ne pas rester à la porte, eh bien, nous entrerons sur les talons de son meilleur ami, pas tout à fait anonyme, puisqu'il s'agit de Georges Clémenceau en personne.
Effectivement, deux grands caractères.
Oui, deux grands caractères réunis dans une même histoire. Ce sera justement l'objet de nos développements dans la deuxième partie de cette émission. Alors, Julia, partante.
Ah bah toujours avec grand plaisir.
Eh bien, en route.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Imaginez une jolie demeure à la campagne, ou toute simple, une maison à un étage, avec des murs de crépi rose, rose très vif, et puis des persiennes, des fenêtres et une terrasse de bois vert jardin, tout ça envahi de fleurs grimpantes. Entrez dans cette maison, imprégnez-vous de l'atmosphère joyeuse, intime, qui baigne la salle à manger aux boiseries jaunes rehaussées de boutons d'or, le petit salon bibliothèque, il est lui tout bleu, le merveilleux atelier, le premier atelier du peintre, devenu salon-atelier, et puis en haut, les chambres animées de couleurs lumineuses, tout ça couvert de fines estampes japonaises sous verre. Et puis maintenant, ressortez dans les fleurs à profusion et la lumière du plus fastueux jardin floral de la région, un des plus réputés du monde, on l'appelle le Clos Normand. À gauche de la maison, quand vous regardez la maison, à gauche, vous avez un deuxième atelier, aujourd'hui aménagé en habitation, et puis tout à droite, un troisième, le plus grand, il est caché en partie par les arbres. Cet atelier-là a été bâti exprès pour abriter les gigantesques compositions des nymphéas, autant dire le testament artistique du maître. Car de l'autre côté du chemin du roi, en contrebas du Clos Normand, c'est devenu par la suite un chemin de fer, et puis aujourd'hui c'est la route de Vernon à Gisors, vous avez un étang avec des ruisseaux qui sinuent parmi les saules et les plantes d'eau. On appelle ça le jardin d'eau. Eh bien, nous allons nous y plonger, si vous le voulez, dans cette féerie végétale, dans cette féerie aquatique, les saules inondés de lumière, le petit pont vert jardin sur l'eau fleurie, et là, une silhouette massive de ce bon vieillard en costume de toile claire, avec un grand chapeau de paille à large rebord et une énorme barbe blanche. Enfin, elle est poivre et sel, réellement, cette barbe. Elle lui dévore tout le bas du visage. Monet, Claude Monet, mène à l'âge mûr et même dans la vieillesse, la vie de labeur paisible en communion avec la nature, avec sa nature, il mène la vie dont il a toujours rêvé. Je crois qu'on peut dire que Giverny, c'est l'ultime œuvre picturale de Monet. Grandeur nature. Après avoir si longtemps capté les effets lumineux sur la nature dans le périmètre de ses toiles, il a fait exploser le cadre et il s'est mis à l'œuvre sur la nature elle-même, sur le modèle autour de lui. Ce jardin de Giverny, écrivait un journaliste à la mort de Monet, était une palette que préparait lui-même le grand peintre. Un mois jaune, jonquille, safran, orange, capucine, tous les ors de la terre s'offraient à ses yeux. Le mois suivant, par l'effet d'un coup de baguette, tous les bleus surgissaient de sa terre. C'est Octave Mirbeau, le merveilleux Octave Mirbeau, grand ami de Monet, qui devait brosser de Giverny, de cette espèce de petit paradis floral, un véritable tableau littéraire. Je le cite. Au printemps, le camaïeu des iris blancs, mauves, jaunes, bleus, des émérocelles aux odorants calices, des clématites aux corolles immaculées, lavées d'azur et de rose. En été, la surprenante féerie des pavots, des roses trémières, des soleils du Texas, des grands éliantes de Californie. À l'automne, les capucines multicolores qui envahissent les allées, les reines marguerites, les fastueux dahlias, les anémones du Japon, les phlox illuminant les plates-bandes. S'il avait été un peu plus disert, Mirbeau aurait pu évoquer ces années pendant lesquelles Monet a littéralement transformé l'univers autour de lui. Il aurait pu aussi nous parler de toute la vie du peintre, de sa formation, de sa jeunesse bohème, de ses difficultés des débuts transcendées par une avancée artistique et des trouvailles techniques qui, littéralement, le portaient. Pour apprécier ce qu'est devenu Giverny, pour apprécier l'espèce de plénitude qui envahit la vie de Monet dans les 25 dernières années, il faut revenir un demi-siècle en arrière. Monet a 5 ans lorsqu'il suit sa famille au Havre. C'est au Havre que ses sens vont s'éveiller à la beauté. Au collège, il a un prof de dessin qui est un ancien élève de David qui le remarque tout de suite et qui a vu qu'il était doué pour la caricature. Il faut dire que Monet, le petit Monet, sait croquer les bourgeois du Havre. C'est tellement bien ce qu'il fait qu'on finit par l'exposer. Un papetier graveur accepte de prendre un certain nombre de ses caricatures, de les mettre dans sa vitrine. Et c'est dans la boutique de ce papetier que Monet va rencontrer un certain Eugène Boudin. Boudin, le grand peintre de nos grèves, de nos plages normandes et de leur ciel tellement changeant, Boudin convie Monet à le rejoindre sur les grèves pour peindre en plein air d'après nature. Il lui en restera quelque chose, évidemment, et l'on peut même dire qu'en vérité, c'est là, aux côtés du grand Boudin, que Claude Monet a commencé à donner le meilleur de lui-même. Il va continuer à se former pendant très longtemps. En 1862, on le trouve de retour à Paris. Il s'inscrit à la Petite Académie. Il fait la connaissance de Renoir, de Sisley, de Bazzi, qui devient son meilleur ami. Et on voit, à Pâques 1663, Monet et Bazzi séjourner à Chailly-en-Bière, à l'hôtel du Lion d'Or. On est tout près de Barbizon, hein. On est à moins de 3 km de Barbizon. Cette jolie campagne, à l'époque, est rendue accessible grâce au chemin de fer qu'on vient d'ouvrir et qui met cette campagne à 1h30 de Paris. On est aussi à la grande époque des pique-niques. Ces pique-niques qui commencent à inspirer les peintres. On pense évidemment au déjeuner sur l'herbe de Manet, ça inspire directement Monet. Il décide de peindre une très grande toile. Si je devais la manquer, celle-là, dit-il à Bazzi, je crois que je deviendrais fou. Quand je dis très grande toile, elle est immense, hein, 6,40 m sur 4,60 m. Évidemment, c'est trop grand pour être peint ailleurs qu'en atelier. Monet va donc faire des études d'après nature et c'est sur ces études qu'il construira ensuite son tableau. Il renonce à l'exposer au salon de 1866. Et à la place, il expose un portrait en pied de Camille Doncieux, qui serait déjà sa femme si la famille de Monet n'avait opposé un veto formel à leur mariage. Elle le deviendra du reste bientôt. Il rebaptise la toile « La dame à la robe verte ». La rumeur veut qu'elle ait été peinte en 4 jours et l'on commence déjà à admirer le talent tellement brillant de ce jeune peintre. Et pourtant, l'année suivante, le salon refuse une autre grande composition en plein air, avec des jeux de lumière instantanés saisis sur de grandes robes blanches et un feuillage luxuriant. Ce sont les fameuses femmes au jardin qu'on admire aujourd'hui au musée d'Orsay. Personne ne va donc pouvoir acheter la toile, ou plutôt, celui qui l'achète, c'est Bazzi lui-même. Il l'achète pour 2500 francs et il se met d'accord avec le peintre, avec son ami Monet, pour des mensualités de 50 francs. Cette toile a bien été peinte dehors, dans le jardin de Monet, à Sèvres, près de la gare de Ville-d'Avray. Alors, bien sûr, elle est un peu grande, cette toile. C'est pas la première fois qu'on peint en extérieur. Je vous ai parlé de Barbizon, de l'école de Barbizon, et avant eux même, Corot avait déjà peint des toiles en extérieur. Mais là, on est sur une immense toile qui suppose qu'on creuse une tranchée dans le sol et qu'on la fasse monter et descendre à la volonté, avec tout un système de poulies. Monet est là, et dès qu'un nuage vient à passer devant son soleil, il pose les pinceaux. On lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous attendez ?»« J'attends le soleil, » dit-il. Il se laisse imprégner, il se laisse impressionner par la lumière pour capter un instant fugitif, pour le rendre éternel. C'est cette extraordinaire transmutation dont parle Proust à propos d'un peintre qui, dans son œuvre, s'appelle Elstir et qui ressemble évidemment comme deux gouttes d'eau à Claude Monet. Le travail de ces femmes au jardin est achevé à Honfleur, dans l'atelier de l'hôtel du Cheval Blanc. Et pour la première fois au monde, sur une toile, la lumière apparaît véritablement changeante, diaprée, multiple. Elle est naturelle, cette lumière. Elle n'a rien à voir avec la lumière apprivoisée de l'atelier.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant.
Cet après-midi sur Europe 1, au cœur de l'histoire, met un coup de projecteur sur l'amitié entre Georges Clemenceau et Claude Monet, Franck Ferrand.
Claude Monet est à la recherche, une recherche éperdue d'effets de lumière qui se dérobent d'autant plus qu'il prétend les capturer une bonne fois. En attendant, les commandes ne viennent pas vite. Le collectionneur Ernest Auchedé, quand même, va finir par commander à Monet pour le salon de compagnie de son château de Montgeron 4 toiles. Et ce doivent être des vues de la propriété, ce qui fait que Monet va aller séjourner chez Auchedé. Il y va de septembre à décembre 1876. Alors, les motifs sont les fameux dindons blancs, les dahlias, la chasse et les temps de Montgeron. Monet est très bien reçu par les Auchedé, et notamment par Madame, qui est douce, qui est prévenante, qui est le charme même. L'exposition des impressionnistes l'année suivante proposera 8 versions de la gare Saint-Lazare. Vous savez que Monet avait demandé une autorisation spéciale pour aller peindre à l'intérieur de cette gare qui était sa gare préférée, celle de son vexin normand, celle de ses plages normandes et celle du Havre, tout simplement. Il a fait cette série de toiles où il essaie constamment de saisir l'atmosphère, au-delà même de la lumière. Bientôt, Ernest Auchedé, le fastueux mécène, fait une faillite retentissante. Et avec sa famille, c'est-à-dire sa femme Alice et leurs 6 enfants, ils vont être amenés à accepter l'hospitalité de Claude et de Camille Monet. Le peintre multiplie à cette époque les vues de la vieille église locale, les vues de la Seine. Il a aménagé à Vétheuil une sorte de bateau-atelier. Alors on pourrait dire, ça y est, il est arrivé à la plénitude de son art, il est reconnu. Oui, attention, à cette époque-là, Monet ne vend encore ses toiles que difficilement et il ne les vend pas cher. Ce qui veut dire qu'il doit produire énormément pour subvenir à toutes les dépenses de Vétheuil, surtout maintenant qu'Auchedé n'a plus les moyens. Camille contracte bientôt une maladie grave. Elle va s'éteindre le 15 septembre 1879 et elle est là. La mort de Camille Monet est une chose assez étonnante, assez terrible en même temps, parce qu'elle est entre son mari, bien sûr, et Alice Auchedé. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que Monet, à cette époque, est complètement pétri de remords, car depuis déjà 3 ans, son cœur n'était plus à Camille, il est à Alice. Ça ne l'empêchera pas de représenter Camille sur son lit de mort. C'est ce tableau magnifique, vous savez, cette espèce de symphonie de mauve. Ce sera peut-être sa toile la plus émouvante. C'est en tout cas l'ultime pose, évidemment, de celle qui avait tant et tant posé pour son mari depuis l'époque de la Dame à la robe verte. 1889, l'événement artistique de l'année à Paris, c'est l'expo conjointe organisée à la galerie Georges Petit derrière la Madeleine, expo conjointe des toiles de Monet et des sculptures de Rodin. On peut parler alors à ce propos d'une véritable consécration croisée, puisque cette expo va marquer le triomphe et de Rodin, qui déjà était très connu, et de Monet. On peut dire qu'il était temps, parce qu'il aura bientôt 50 ans, Claude Monet. Il est désormais à l'abri du besoin. Il va pouvoir se consacrer pleinement à ce qui pour lui est devenu une véritable quête artistique, la saisie de ces variations lumineuses entre les divers instants fugitifs volés à un moment pris comme référence, mais référence tellement fugace. On connaît la série des meules, évidemment, que vous pouvez voir au musée d'Orsay aujourd'hui. La technique de Monet, c'est de conduire de front plusieurs toiles, ce qui lui permet de les reprendre au moment exact où la lumière correspond à ce qu'il attendait. Ce qui veut dire qu'il passe comme ça d'une toile à l'autre dès que l'effet de lumière, qui ne peut durer plus de quelques minutes, se modifie et puis s'évanouit. Depuis l'automne 1890, il a acquis pour 22 000 francs de l'époque la propriété qu'il louait à Giverny depuis 1883. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, Alice vit avec lui, puisque Ernest Auchedé est mort à son tour, donc elle est devenue officiellement sa compagne. À la fin de l'hiver 1892, Monet s'installe à Rouen, à l'hôtel d'Angleterre au deuxième étage, juste en face du portail ouest de la célèbre cathédrale. Et il va y revenir l'année suivante, en 1893, pour compléter toute une série de toiles, en essayant toujours de saisir les subtilités chromatiques de la lumière sur la pierre aux différentes heures du jour. On peut dire que c'est le triomphe de Monet que ces cathédrales de Rouen. « Plus je vais, écrit-il pourtant à un ami, plus j'ai de mal à rendre ce que je sens. Et je me dis que celui qui prétend avoir fini une toile est un terrible orgueilleux. Finir voulant dire complet, parfait, et je travaille moi sans avancer, en cherchant, en tâtonnant sans aboutir à grand-chose, mais au point d'en être fatigué. » Et si l'on ose dire, cela se voit que Monet est fatigué sur ses toiles. On peut dire que la spontanéité saisissante de ses œuvres de jeunesse, à la Grenouillère, à Bougival, à Argenteuil, l'espèce de fraîcheur juvénile qui animait ses toiles à l'époque, a un peu disparu. Il faut bien dire que les études très subtiles et infiniment précises des meules, de la cathédrale de Rouen, etc., ces études sentent un peu l'huile de coude. Il faut dire aussi et surtout qu'elles sont achevées en atelier. Pour Monet, ça veut dire plus de perspective, plus d'espace, seulement une vue de l'esprit en deux dimensions. En attendant, l'heureux propriétaire de Giverny est devenu une sorte de légende vivante de la peinture. On le voit demander jusqu'à 1500 francs pour chacune des 30 toiles qu'il a tirées de son assaise rouennaise. On voit s'installer autour de lui un certain nombre d'amateurs. Les Américains, et j'ai plutôt envie de dire les Américaines notamment, sont extrêmement friandes de ces toiles et elles sont là à guetter ces sorties hors de la maison qui sont du reste extrêmement rares. Leur but, leur rêve, c'est de rencontrer un jour le grand Monet. Le fait est qu'il ne leur donne que très rarement l'occasion d'une conversation ou même d'un simple échange. Tout à l'heure, nous allons revenir sur cette période de la grande maturité, même de la vieillesse de Claude Monet, qui est aussi celle de son amitié, très belle amitié avec l'immense figure de Clémenceau. Et nous le ferons en compagnie du biographe de l'un et de l'autre, de l'auteur plutôt d'une biographie croisée des deux hommes. Cette amitié entre Monet et Clémenceau qui est loin d'être le plus petit chapitre de cette grande vie.
Orchestrale signée du compositeur Claude Debussy sur Europe 1. Restez avec nous, Franck Ferrand revient juste après une petite page de publicité.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Au cœur de l'histoire, mais à l'honneur aujourd'hui sur Europe 1, l'un des artistes peintres français les plus connus puisqu'il s'agit de Claude Monet, Franck Ferrand.
Je parlais à l'instant de Clémenceau, il faut savoir qu'il était le voisin de Claude Monet, nous y reviendrons tout à l'heure. Et Monet avait formé le projet d'offrir à l'État une série de grandes décorations inspirées par le jardin d'eau. Ce sont les fameux nymphéas soyeux ou nacrés, tantôt mauves, tantôt blancs irisés ou jaunes tendres, et qui se mêlent aux roseaux, aux saules, aux agapanthes sur fond de miroir aquatique où se mirent des reflets. Vous savez, ces espèces de reflets changeants instables qu'on aime tellement à la Belle Époque, ces profonds et vaporeux ciels qui ont un côté particulièrement lumineux, qui offrent, nous disait Proust, qui offrent aux fleurs un fond plus précieux que la couleur des fleurs elles-mêmes. Ce sera la manière que Monet a trouvée, la seule qu'il ait, la seule dont il dispose encore, pour tout dire, de prendre part à la victoire de 1918. Et je vous ai dit tout à l'heure en commençant cette émission qu'un atelier spécial aux dimensions élargies avait été créé exprès pour peindre les nymphéas. Claudel dit il s'adresse à cette surface presque invisible et spirituelle qui sépare la lumière de son reflet. L'azur aérien captif de l'azur liquide, la couleur monte du fond de l'eau par nuages, par tourbillons. Et nous verrons Clémenceau lui-même qui soutient, qui pousse Monet dans cette grande entreprise, s'exclamer « Quel spectacle ! Un champ d'eau chargé de fleurs et de feuillages dans tous les brassements de la flambée solaire avec les répercussions mutuelles de l'écran céleste et du miroir aquatique. » Pourtant, cette création des nymphéas sera douloureuse et d'autant plus douloureuse pour Claude Monet qu'il traverse à l'époque un certain nombre de deuils très durs. Sa femme, son fils meurent successivement en 1911, en 1914 et puis la vue de Monet baisse. Monet, c'est un œil, disait Cézanne, mais quel œil ! Ironie de cette fin de vie apparemment paisible, le vieil artiste est atteint à l'œil, justement, ou plus exactement aux yeux. Il doit subir les effets d'une cataracte de plus en plus invalidante. Cette cataracte va l'empêcher de peindre normalement pendant plusieurs années. Et Monet refuse l'opération. Il a tellement peur de perdre le peu qu'il lui reste de vue. Dans les derniers mois de 1922, il ne perçoit même plus véritablement les couleurs. Vous vous rendez compte, lui, le maître des couleurs, lui qui avait réussi à apprivoiser la lumière. Sur les instances de Clémenceau, il accepte finalement de se faire opérer en janvier 1923. Il reverra donc, mais il reverra trop tard. Il se considère déjà comme fichu, c'est son propre terme. Monet mourra le 6 décembre 1926, juste un peu trop tôt pour assister à l'inauguration de ces grandes décorations des nymphéas dans les deux salles ovales aménagées spécialement au sous-sol du musée de l'Orangerie des Tuileries à Paris. Le 17 mai 1927 aura lieu cette extraordinaire inauguration des nuages, matin, reflet vert, soleil couchant, saule, reflet d'arbres sur ce parterre céleste voulu par Monet et offert par lui à la France. Je voudrais que celui qui fut personnellement un jeune ami de Claude Monet, il l'était parce qu'en vérité, c'est son père qui connaissait bien Monet, c'est Lucien Guitry, j'ai donc nommé Sacha Guitry. Je voudrais laisser à Sacha le soin d'évoquer la mort du maître de l'impressionnisme, donc à la fin de cette année 1926. Vous allez voir que Monet est mort dans une sorte de plénitude et qu'il a été accompagné jusqu'au bout par son grand ami Clémenceau. Voilà la façon dont Sacha Guitry rendait compte de cette mort de Claude Monet. C'était dans une conférence qui s'appelait « Ceux de chez nous » et qui, en 1947, a été filmée par Frédéric Rossif.
Un après-midi vers 5 heures, il cessa tout à fait de voir. Alors il se coucha et désormais ne voulut plus se relever. Quelques jours plus tard, il était à l'agonie. Vaincu, il avait appelé la mort. Tenant sa promesse, Blanche Monet télégraphia à Clémenceau qui se trouvait en Vendée. Celui-ci ne perdit pas une seconde, sauta dans son auto et pendant 700 kilomètres, de Saint-Vincent-sur-Jard à Giverny, du fond de sa voiture, toute glace baissée, il ne cessa de crier à Brabant, son chauffeur, « Plus vite, plus vite, plus vite !» Ce merveilleux vieillard voulait arriver à temps pour embrasser celui qui s'en allait. Il arriva tout juste à temps et Monet mourut dans ses bras. Pendant 2 jours, Clémenceau dormit dans la chambre voisine de celle où reposait son vieil ami. Silencieux et émouvant, il assista à la mise en bière. Mais quand l'homme des pompes funèbres voulut recouvrir le cercueil du voile noir traditionnel, Clémenceau le lui prit des mains. « Non, dit-il. » Puis, ayant regardé tout autour de lui, il alla à la fenêtre, arracha l'un des rideaux de toile fleurie, et lui-même il en couvrit le cercueil du grand peintre en disant à mi-voix « Pas de noir pour Monet, le noir ce n'est pas une couleur. »
Pas de noir pour Monet. Le noir, ce n'est pas une couleur. Le comportement admirable, exemplaire de Clémenceau au chevet de Monet disparu n'est que la traduction d'une longue et belle amitié, assez longue, assez belle en vérité, pour qu'on lui consacre un essai. L'auteur de cet essai, de cette biographie croisée, est avec nous dans ce studio. Mm-hmm. Et juste après le flash de 14h, il nous aidera à lever un coin du voile sur cette amitié qui devait finir par doter la France d'un de ses plus beaux chefs-d'œuvre, les fameux nymphéas de l'Orangerie des Tuileries.
14h30 sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Et on vous retrouve, Franck, avec vos invités pour parler aujourd'hui d'une très belle histoire d'amitié entre Georges Clemenceau et Claude Monet.
Dans l'histoire que je vous ai racontée, Clemenceau apparaît tard. On peut même dire qu'il apparaît tout à la fin. Mais en vérité, c'est d'une amitié de 30 ans et plus qu'il conviendrait de parler. Or, ces deux grands hommes, chacun dans son domaine, se sont mutuellement admirés. Ils se sont mutuellement aimés. Voilà qui méritait que l'on s'y penche. C'est ce qu'a fait Alexandre Duval-Stalla dans une biographie croisée, parue chez Gallimard l'année dernière et que j'avais reçu avec la dédicace suivante. Je vous lis quand même la dédicace d'Alexandre à Franck Ferrand. Donc, cette fresque de bruit, de fureur et de caractère sous les lumières croisées de la République et de l'impressionnisme, jusque-là, tout va bien. Et attention, in coda venenum, afin peut-être que son regard sur Clemenceau se fasse plus conciliant. C'est vrai, les auditeurs fidèles d'Europe 1 savent que j'ai souvent la dent dure avec Clemenceau. Peut-être fallait-il, pour que je devienne plus amène, l'aborder par le biais de Monet. Il faut dire que l'inverse existe, hein, c'est-à-dire qu'une bio écrite par Clemenceau sur son ami existe. Elle a été rééditée d'ailleurs par Perrin récemment, en 2000. C'est simplement Claude Monet par Georges Clemenceau. Leur correspondance aussi existe. Bonjour Alexandre Duval-Stalla.
Bonjour Franck Ferrand.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous vous étiez déjà penché sur une biographie croisée de De Gaulle et Malraux, deux très grandes figures de la fin du XXe siècle. Là, nous partons 50, 60, 70 ans en arrière et ce sont les deux monstres sacrés de la Troisième République que vous mettez en valeur à travers donc Monet. Alors on vient d'en parler pas mal là, dans cette première partie. Et puis Clemenceau, vous aurez remarqué que je n'en ai quasiment pas parlé parce que je voulais le faire sous votre contrôle ou en tout cas en votre compagnie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de cette belle amitié d'abord ?
C'est toujours le rapport en fait entre l'histoire et l'art. Et il y avait effectivement dans cette amitié quelque chose d'unique parce qu'il n'existe pas une amitié à un tel niveau entre un chef d'État, chef de gouvernement et un artiste, un peintre. Et donc raconter cette histoire faite d'une amitié très fraternelle, très, très, très bourrue, faite
oui,
d'engueulades.
Ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est de l'amitié virile. Là. On est loin des amitiés particulières entre les deux. Là.
Tout à fait. C'est d'ailleurs ce que disait Clemenceau. Il disait de l'amitié des engueulades, c'est de ça qui est faite ma vie, je ne peux pas aimer quelqu'un sans l'engueuler. Voilà. Donc je pense que Monet a été beaucoup aimé.
Il était plus que bougon, Clemenceau, quand même. Avouez qu'il était d'un tempérament très difficile. Évidemment, Monet était un homme très réservé, très d'une pudeur d'ailleurs mythique. Mais Clemenceau, vraiment, quel
ours. Je crois que c'est vraiment le choc de deux caractères, parce que l'un et l'autre, peut-être que nous connaissons moins celui de Monet, mais ils avaient tous les deux des caractères très entiers et très trempés. Et je crois qu'ils n'auraient pas été ce qu'ils ont été s'ils n'avaient pas eu ce caractère entier. Enfin, Monet, dans toute sa peinture, c'est le seul intérêt, presque passion de sa vie.
Il s'était déjà engueulé avec Rodin, Monet. Il faut le dire.
Alors ça, c'était le choc effectivement des égos. Ils font une exposition ensemble et puis Monet trouve que ses toiles ne sont pas assez mises en valeur par rapport au statut de Rodin. Mais il reste quand même d'une amitié très forte.
Alors, ce que vous montrez, c'est que tout est vraiment né d'un article de Clemenceau. Au départ, c'est né d'un beau morceau de flagornerie, tout ça. Un article paru dans La Justice au printemps 95 à propos d'une expo de Monet chez Durand-Ruel, où figuraient d'ailleurs, parmi une cinquantaine d'œuvres, les fameuses 20 cathédrales de Rouen dont j'ai parlé tout à l'heure. Clemenceau a été complètement ébloui au sens propre par cette série de cathédrales et il écrit donc pour La Justice un article dithyrambique qui forcément va toucher Monet droit au cœur.
Voilà, les artistes et les politiques ont ça de commun, qu'ils ont un ego surdimensionné. Il suffit de les flatter pour qu'effectivement ils se reconnaissent très gentils avec ceux qui les flattent. Mais en fait, l'histoire de l'amitié est une histoire à rebondissement. Ils se sont connus en fait quand ils avaient 20 ans tous les deux dans le Quartier Latin, foyer à l'époque de l'agitation républicaine face au Second Empire. Et c'est dans ce cadre-là, et notamment dans les cafés où les discussions étaient très agitées, qu'ils se rencontrent.
Est-ce qu'ils étaient vraiment amis à l'époque ? Ils avaient des relations amicales, disons, de
Alors,
copains.
Ils se croisaient, effectivement, oui, voilà. puisqu'ils avaient des journalistes en commun qui se connaissaient. Et puis, dans son livre sur Claude Monet, Clemenceau dit, déjà à l'époque, on disait « c'est du Monet ». Je pense que c'est un peu romancé, mais il avait déjà cette première admiration. Et ils vont se retrouver après, quand ils ont une cinquantaine d'années tous les deux, grâce à une troisième personne qui est Gustave Geoffroy, qui va rencontrer à Belle-Île où Monet est allé peindre et qui lui-même était le critique d'art de la justice, le journal de Clémenceau. Et c'est à ce moment-là qu'ils font petit à petit renouer contact et renouer leur amitié. Mais c'est vrai que l'article sur les cathédrales...
C'est le déclencheur de l'amitié profonde, en quelque sorte. Ouais. Donc ça, c'est 1895. Ça va durer évidemment jusqu'à la mort de Monet, nous l'avons vu, donc pendant 30 ans.
Voilà. Et leur amitié va vraiment grandir au fur et à mesure. D'une part parce que c'est à ce moment-là que Clémenceau perd les élections et donc il le dit d'ailleurs lui-même, j'ai été trahi, ma femme m'a quitté, il ne me reste plus rien, je ne suis plus qu'un journaliste. Les journalistes de ces stations apprécieront.
Cela dit, je pense que ça ne les surprendra qu'à moitié. Il a quand même fallu que Clémenceau soit au creux de la vague pour qu'il ait le temps de s'intéresser à la peinture.
Hein. Alors, il s'intéressait à beaucoup de choses, mais c'est vrai que cette période-là lui a permis de s'intéresser à plein de choses, au théâtre, et non pas simplement aux cocottes.
Même à Zola.
Au théâtre, à Zola, à toute la vie culturelle. Et c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir avoir le temps de renouer, même si pendant cette période-là, son grand combat va être aussi le combat pour Dreyfus. Ils vont renouer d'une certaine manière l'amitié qui va grandir au fur et à mesure parce qu'il y a eu un phénomène aussi qui s'est passé, c'est qu'ils vont rester les deux seuls de leur génération et ça renforce aussi d'une certaine manière l'amitié.
Ça, quand ce sont deux grands vieillards qui sont en plus quasiment les deux grandes gloires nationales, on peut comprendre effectivement qu'ils se retrouvent. Mais au départ, ce n'est effectivement pas le cas. Quel est le regard de Claude Monet sur l'affaire Dreyfus ?
Alors, encore une fois, Claude Monet, sa seule passion dans la vie, son seul intérêt, c'est la peinture. Et il y a quelques moments où il va sortir de ce champ-là, et c'est notamment à l'occasion de l'affaire Dreyfus, où il va soutenir Zola. Il va écrire à Zola en lui disant qu'il soutient son combat, il va participer à une souscription publique. Et surtout, il va offrir à Clémenceau, en témoignage d'amitié et d'affection, le bloc, qui est en fait un des rochers de la Creuse, qui se trouve aujourd'hui d'ailleurs assez paradoxalement dans les collections privées de la reine d'Angleterre. Et il va donc offrir ce merveilleux bloc, puisque bien évidemment Clémenceau disait que la Révolution française est un bloc, et donc il le remercie de son combat pour Dreyfus dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, il y a une très jolie lettre de Clémenceau qui n'est pas une vraie lettre de remerciement, parce qu'il dit « Il y avait entre nous ce bloc, je ne savais pas comment vous remercier, on ne remercie pas un rayon de soleil ».
Europe 1, au cœur de l'histoire. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et on vous retrouve sur Europe 1 avec votre invité Alexandre Duval-Stalla, qui est avocat au barreau de Paris, mais également auteur de biographie, Franck.
Claude Monet, Georges Clémenceau, une histoire de caractère. C'est une biographie croisée qui est parue chez Gallimard dans la collection L'Infini chez NRF. Une biographie croisée d'Alexandre Duval-Stalla qui est en train de se faire une spécialité du genre. Il y en a une troisième en préparation ?
Il y en a une troisième en préparation.
Ah ben voilà. On ne peut pas savoir à propos de qui.
Surprise.
Encore un politique et un artiste ?
Encore un écrivain et un homme d'État.
Alors je sais, ce sera Auguste et le poète aîné. Ça ferait une belle biographie croisée en tout cas, mais visiblement à votre réaction, je sais déjà que ce n'est pas ça. Cette biographie croisée de Claude Monet et Georges Clémenceau est bien sûr une histoire de leur amitié, de leur extraordinaire relation, mais c'est aussi, comme son nom l'indique, le croisement de deux parcours. Et au départ, bien entendu, pendant toute la longue période où ils ne se connaissent pas, et ensuite pendant celle où ils se connaissent mais sans se fréquenter tellement, vous nous racontez leur parcours à l'un et à l'autre. Alors le parcours de Monet, je n'ai pas la prétention d'avoir fait le tour de la question, évidemment. J'ai été assez allusif et rapide dans cette première partie. Mais nous en avons parlé. En revanche, je me suis bien gardé, étant donné la réputation que vous notamment m'avez faite, de parler du parcours de Clémenceau. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces deux parcours ? Est-ce que les deux hommes, en quelque sorte, ont des expériences communes dans l'enfance ou dans la jeunesse ?
Alors, ils ont un rapport au père différent. Mais ils ont un vrai rapport au père, c'est-à-dire que Clémenceau a une admiration sans borne pour son père qui est républicain farouche, qui sera arrêté d'ailleurs au moment du coup d'État de Napoléon III. Et son fils se précipitera au moment où il est arrêté en lui disant « je te vengerai ». Et son père lui répond « si tu veux me venger, travaille ».
C'est une scène affreusement dramatique et dont on peut comprendre qu'elle ait ensuite décidé d'une immense carrière, car c'est un traumatisme terrible. Il voit vraiment son père comme ça emmené sous ses yeux.
C'est... Tout à fait. Et son père en plus, qui est encore plus caractériel que l'est Clémenceau, donc j'allais dire, il a puisé là dans son enfance tous les traits de son caractère. Contrairement effectivement à Monet,
qui la force d'âme.
Voilà. qui lui a plus un rapport conflictuel avec son père, puisque son père, bien évidemment, ne voudra pas qu'il soit peintre, et donc il s'opposera à son père. Et quand son père lui dit « je ne te donnerai pas d'argent », il lui répond « je m'en passerai ».
Ce qu'on remarque néanmoins, ce qui est assez frappant dans ces parcours croisés, c'est qu'ils sont l'un comme l'autre très perméables à l'époque. Vous nous avez dit, Monet ne s'intéresse qu'à la peinture, qu'à sa peinture, et c'est vrai qu'il est totalement obsédé. Évidemment, Clémenceau, par la nature même de ses centres d'intérêt, est plus ouvert d'esprit. Mais l'un comme l'autre sont bien des enfants de leur temps.
Ils sont des enfants de cette période où, effectivement, une certaine jeunesse a envie de liberté et donc de la République. Il faut savoir qu'au départ, Clémenceau n'était pas un homme politique, mais était un docteur et qu'il a fait médecine. Il a commencé à Nantes et il a terminé à Paris.
Il est allé aux États-Unis, ça vous racontez.
Il est allé aux États-Unis parce qu'en fait, il a eu une déception amoureuse et la famille d'un de ses amis, un peu plus haute bourgeoisie, refuse que le bleu de Vendée vienne tacher presque le sang de la famille. Et donc, de dépit, il dit « je pars aux États-Unis ». Et donc, il va passer 4 ans aux États-Unis, à tel point que son père a presque peur qu'il reste là-bas et qu'il devienne un gentleman farmer américain. Heureusement pour nous, il est revenu. Pour d'autres, peut-être pas, mais en tout cas...
avec une épouse
Avec une épouse, tout à fait, Marie Plummer. La même qu'il aura trompé d'ailleurs assez longuement, mais dont il ne supportera pas, lui, son infidélité.
Vous avouerez que ça fait partie, alors je ne veux pas instruire ici le moindre procès à charge, cela dit, vous seriez bien beaucoup mieux équipé qu'un grand nombre de mes invités pour assurer la plaidoirie, Alexandre Duval-Stalla, mais on peut dire quand même que l'inégalité de traitement, là, est totalement invraisemblable, c'est-à-dire que Clémenceau trompe sa femme à tour de bras. Mais la première fois où elle a une petite aventure, dont d'ailleurs on ne peut pas dire grand-chose, il la met tout simplement dehors.
C'est une attitude très masculine.
J'adore la concision de cette remarque. Est-ce que Clémenceau va, au moment où il se lance à corps perdu dans la politique, faire preuve quand même d'un certain intérêt pour les arts, pour la culture ?
Oui, il a toujours été très, très curieux de beaucoup de choses et notamment ce qui est d'ailleurs le trait caractéristique chez le général de Gaulle et chez Clémenceau, c'est cet attachement très très fort à l'éducation, à la culture, aux humanités qui fait vraiment le socle de leur vie politique parce qu'ils n'ont pas été aussi extraordinaires et brillants s'ils n'avaient pas eu ce socle très fort. Au fond des victoires d'Alexandre, on retrouve toujours Aristote, disait le général de Gaulle, et c'est vrai que c'est un lien très très fort entre Clémenceau et de Gaulle, et c'est comme ça qu'il a aussi forgé ses idées politiques, parce qu'on est vraiment dans une période où il a fallu asseoir l'ensemble des libertés, c'est-à-dire les libertés d'expression, liberté de la presse, liberté d'association, la liberté d'enseignement, la liberté de croire ou de ne pas croire, et c'est vraiment tous les débuts de la Troisième République.
Mais ce qu'on ressent bien, c'est qu'il y a aussi un artiste en Clémenceau, c'est-à-dire que cet homme-là est d'abord un magicien du verbe.
C'est à la fois un magicien du verbe, un excellent orateur, un comédien hors pair, puisque d'une certaine manière, pour faire de la politique, à ce niveau-là, il faut être aussi un comédien hors pair. Et il joue de tout ça, de ses bons mots, de ses... Boulanger mort, il a une épitaphe en disant il a vécu comme il est mort, c'est-à-dire en sous-lieutenant. quand Fort meurt, il ne manque pas un homme de moins à la France. Donc vraiment, il a des traits très, 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 très durs, parfois. Très juste, et c'est peut-être pour ça qu'il se
attire les rancœurs. Pensez un peu à Churchill, tout ça aussi, un peu. Hein.
De très grands caractères qui sont là et qui se battent tout à fait de manière intransigeante et qui, encore une fois, c'est ce que disait Clémenceau, nous gagnerons la guerre parce que nous tiendrons un quart d'heure de plus que les autres. Et c'est vraiment très... Churchill, d'une certaine manière, reprend aussi cet esprit très de Clémenceau.
Alors, à travers votre ouvrage, Alexandre Duval-Stalla, on voit ces deux parcours un peu parallèles, on les voit s'entrecroiser, c'est d'ailleurs, vous tricotez ça vraiment très bien, de temps en temps, donc ils se rapprochent, ils se rééloignent un peu, et puis il y a donc cette vraie rencontre avec un grand R, et à partir de ce moment-là, ils ne se quittent quasiment plus.
Ils se quitteront plus, effectivement, après la guerre, parce que Clémenceau va vraiment celui qui va soutenir de toutes ses forces et de toute son âme Monet pour terminer les Nymphéas, qu'il ne veut pas terminer, en fait.
Je l'ai dit, moi, en quelques mots, comme ça, mais il faut revenir vraiment sur cette histoire des Nymphéas. Clémenceau soutient l'idée de son ami de faire un grand cadeau, un grand présent à la France. Il y a bien cette dimension nationale et nationaliste au départ, à l'origine du projet.
National.
National.
Il y a, et patriotique. Il y a effectivement, le 12 novembre, donc le lendemain du 11 novembre 1918, Monet écrit à Clémenceau en disant « Mon cher et grand ami, j'offre à la France deux tableaux ». Et premier jour de congé de Clémenceau, il arrive à Giverny. Sacha Guitry raconte très très bien cette histoire-là. Ils se tombent dans les bras l'un de l'autre dans ce jardin d'hiver où les roses s'étaient retenues de mourir. Et effectivement, ça ne sera pas deux tableaux, lui dit Clémenceau, mais ça sera 18 et ça sera le chef-d'œuvre de votre vie. Et encore une fois, c'est sans doute le plus beau bouquet. Voilà, c'est sans doute le plus beau bouquet jamais offert à la France.
Eh bien, ce bouquet offert à Marianne, nous y revenons aussitôt après la publicité, en compagnie de celui qui a pour charge de veiller sur lui.
Franck Ferrand sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Avec à la une l'amitié Monet-Clémenceau, et pour en parler, on vous retrouve, Franck, avec votre invité.
Alexandre Duval-Stalat, je devrais dire maître Alexandre Duval-Stalat, car vous êtes avocat au barreau de Paris, auteur donc de Claude Monet, Georges Clémenceau, une histoire de caractère, cette biographie croisée qui nous permet, on peut dire, de suivre le parcours de l'un et de l'autre jusqu'à leur véritable rencontre et jusqu'à ce point quasi fusionnel de 1918, à partir duquel ils ne se quitteront plus. Ce ne sont pas quand même leurs plus belles années qu'ils ont à vivre ensemble, si je puis dire, puisque Clémenceau aura bientôt le très grand regret de n'être pas élu président de la République. Quant à Monet, il perd peu à peu la vue. Pour lui, c'est terrible.
C'est terrible, et d'ailleurs, c'est terrible parce que les opérations à l'époque, vous imaginez bien, il n'y avait pas d'anesthésie, et la seule anesthésie qu'il y avait, c'était un coton d'éther sur le nez. Et donc, c'est vrai qu'il va avoir très peur de cette opération, et c'est grâce au Clémenceau docteur qu'il va finalement se laisser convaincre de faire cette opération, avec la difficulté que Clémenceau va tout de suite réaliser, c'est que s'il retrouve la vue, est-ce qu'il ne va pas encore plus détruire les tableaux qu'il était en train de faire ?
Parce que finalement, il travaillait presque à l'aveuglette sur la fin de sa vie. C'est terrible, cette histoire.
Il y a certains historiens d'art, comme Pierre Vatte notamment, qui pensent que Monet, ayant tant eu une relation si fusionnelle avec la peinture, arrive à peindre sans reconnaître les...
C'est un peu Beethoven composant sans entendre la musique,
tout
finalement.
Tout à fait, voilà.
Alors, vous nous avez dit que les nymphéas du musée de l'Orangerie étaient sans doute le plus beau bouquet de fleurs jamais offert à Marianne. Et d'ailleurs, c'est pas sans doute, c'est une certitude. Nous sommes en ligne avec le directeur bien connu du musée de l'Orangerie de Paris, Emmanuel Bréon. Bonjour Emmanuel Bréon.
Oui, bonjour.
Merci de nous parler de cet extraordinaire bouquet de fleurs dont vous avez eu la charge. Est-ce que c'est encore aujourd'hui un endroit très visité des touristes ?
Ah, tout à fait. L'orangerie, c'est très émouvant d'ailleurs, parce que les gens du monde entier viennent à l'orangerie essentiellement pour les nymphéas. C'est une population qu'on peut estimer à 1500 par jour, vous voyez, ce qui est extraordinaire. Coréens, japonais, donc, qui se reconnaissent, enfin, qui voient dans Monet, dans ses nymphéas, quelque chose de zen qu'il voulait lui-même, hein, puisqu'il disait les nerfs surmenés par le travail se seraient détendus là, selon l'exemple proposant de ces eaux stagnantes.
Oui,
et il y a là vraiment à l'orangerie une sorte de parcours initiatique pour tous ces touristes. Bien sûr, il y a les pays d'Europe, les États-Unis qui viennent également, mais c'est une vraie c'est un vrai parcours initiatique pour l'Asie, en tout cas.
C'est vrai qu'il serait dommage de ressortir du musée de l'Orangerie sans être allé donc au sous-sol. Il faut, pour celles et ceux qui ne sont pas encore allés voir les nymphéas, que vous nous expliquiez à peu près quelle dimension ont ces toiles. Il faut visuellement que les gens s'imaginent ce dont nous parlons.
Oui, alors, tout à l'origine, l'Orangerie était juste une salle d'exposition. Et puis l'idée d'installer les nymphéas, idée assez incroyable, extraordinaire, courageuse de Clémenceau, d'offrir à Monet, on imagine aujourd'hui un président du conseil offrant à un artiste au centre de Paris un seul lieu pour une peinture, pour une grande peinture, une grande décoration, le scandale que ça ferait. Mais Clémenceau a une confiance extraordinaire dans cet artiste et il sait que Monet est le plus grand à son époque. Et il lui offre ce lieu extraordinaire au centre de Paris.
L'inauguration a eu lieu donc en 1927.
Oui, tout à fait.
Après la mort donc évidemment de Monet.
Oui, 6 mois après la mort de Monet. Ce qui est curieux d'ailleurs quand ils inaugurent, c'est que on est juste après l'expo de 25, l'expo des arts décoratifs. l'impressionnisme est passé de mode. Et en fait, cette installation au centre de Paris va pas avoir tout le succès qu'elle méritait. C'est juste après la Seconde Guerre mondiale que par l'étranger, toujours, par les Américains notamment, on redécouvre cette peinture extraordinaire qui est un jalon vers la modernité.
Ce sont d'immenses salles de forme ovoïde, hein, il faut bien dire. On est littéralement immergé au cœur même de ce que l'œuvre de Monet aura finalement produit de plus extraordinaire. C'est une expérience esthétique qu'il faut connaître et je ne peux qu'encourager évidemment nos auditeurs à s'y rendre. Merci beaucoup Emmanuel Bréon de nous avoir parlé de ce beau musée de l'Orangerie qui se trouve alors là en plein cœur de Paris, c'est juste à côté de la place de la Concorde. J'aimerais vous demander, Alexandre Duval-Sala, après tout le temps que vous avez consacré à l'un et l'autre de ces deux personnages, s'il y en a un qui a pour vous, j'ai envie de dire, votre préférence, ou en tout cas votre tendresse, ou si les deux vous séduisent autant l'un que l'autre.
Je pense qu'on a toujours des tendresses pour ces personnages, que ce soit dans des romans ou dans des biographies croisées. J'admire Monet parce qu'il a vraiment poursuivi une grande idée de l'art et donc finalement une idée de l'homme. Et puis j'admire Clémenceau parce que il a fondé ces valeurs de la République qui font qu'aujourd'hui, ça nous apparaît très normal, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté d'association, mais toutes ces choses-là ont été des conquêtes. Et le printemps de Jasmin que connaît un certain nombre de peuples rencontre peut-être aussi ces aspirations d'une jeunesse à une liberté qui était complète et totale.
Ça, c'est certain qu'il l'incarne de façon tout à fait évidente. Et on va très bientôt célébrer le 140e anniversaire de la Commune de Paris. On aura l'occasion, évidemment, de parler là aussi de Clémenceau. Merci beaucoup, Alexandre Duval-Sala, d'être venu nous parler de ces deux caractères pour cette seule histoire, Claude Monet, Georges Clémenceau. C'est donc publié chez Gallimard. Un très grand merci à Guillaume, qui a beaucoup travaillé pour cette émission. Merci à Lorena, et nous nous retrouvons évidemment demain pour un tout autre sujet. Je crois qu'il est temps d'accueillir Faustine Bollard. Bonjour Faustine.
Bonjour Franck. Et en effet, c'est l'heure, puisque jusqu'à 15h30, on va évoquer ensemble la vie de couple après l'infidélité. Comment retrouver la force et le courage de pardonner à son conjoint une infidélité d'un soir ou de plusieurs mois? À quoi ressemble la vie de couple après une telle épreuve entre vengeance et pardon? Où trouver le juste milieu? Alors évidemment, on vous invite à nous appeler comme tous les jours. Si vous avez vécu cette situation, avez-vous le sentiment d'avoir tourné définitivement la page? Ou alors, guettez-vous toujours la moindre faute? Comment s'est organisé votre quotidien avec votre famille depuis que vous avez décidé de pardonner à votre partenaire, à moins que vous soyez séparés peut-être suite à cette infidélité? Vous nous appelez évidemment pour nous raconter vos histoires en étant direct sur Europe 1, 39 21 et également le site internet faustine.europe1.fr. Franck.
Merci Faustine, merci Julia, à demain.
Merci Franck, à demain sur Europe 1.